D'abord, je voudrais vous remercier, et ça n'est pas un propos de circonstance, de me permettre de discuter tout à l'heure avec vous et naturellement de préalablement vous dire d'où je vous parle, ce que je veux vous dire dans ce moment très singulier. Et ce moment singulier est douloureux. Mais le fait de se retrouver auprès d'amis que j'estime, retrouver beaucoup de personnes avec qui j'ai entretenu des relations professionnelles amicales ou bien des relations amicales tout court, et qui me font chaud au cœur dans un continent où il fait froid, c'est une raison supplémentaire pour se sentir à l'aise et engager quelque chose qui, naturellement, est plus important que la simple acception que l'on entend généralement lorsqu'on parle de culture comme une sorte de distraction complémentaire du bien-être des gens. Non, naturellement, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, c'est de quelque chose de profond. Je vous parle d'un moment singulier, vous ai-je dit, et en effet, il est assez étonnant ce moment, où l'on voit, comme le titrait Le Monde la semaine dernière, une sorte de grande fatigue démocratique s'abattre sur le monde occidental, comme si les Européens, mais pas que les Européens, voire les Américains la semaine dernière, se trouvaient un peu fatigués du bonheur, parce que le bonheur s'use, et il y a un moment où des différences, des manques très importants, la pauvreté dans beaucoup d'endroits amène à des scrutins tout à fait stupéfiants. Le premier fut le Brexit le 23 juin et le dernier, en attendant de prochains sur lesquels il faut être extrêmement méfiant, qui auront lieu en Europe et d'abord chez nous en France. Et puis on ne sait pas du tout ce qui se passera en Allemagne avec la progression extraordinaire de l'extrême droite allemande, mais je pourrais vous citer aussi le populisme qui a saisi à la gorge M. Orban en Hongrie, alors que c'était un des hommes qui était sur les barricades en 89. C'est même lui qui avait cisaillé le barbelé entre la Hongrie et l'Autriche. Je pourrais vous parler naturellement des frères Kaczynski en Pologne, enfin de celui qui reste, qui n'avait pas voulu voyager dans l'avion. Je ne vous dirai pas mon sentiment sur cet avion. Bref, le monde entre dans une période extrêmement mouvante. Et au fond, les hommes de culture que j'ai fréquentés dans ma vie professionnelle précédente, et que je, pour d'autres que je vois maintenant, me donnent le sentiment que nous vivons sur un continent qui est à la fois un continent de grâce, parce que c'est un continent de culture, je dirais ce qu'il faut en comprendre, mais aussi un continent de violence. Et avant de parler du sujet qui vous mobilise plus particulièrement professionnellement, je voudrais donner un substrat politique au sens noble du terme, c'est-à-dire historique, à ce qui se passe sur ce continent. Vous connaissez tous la phrase reprise par Elie Wiesel, les peuples qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à la revivre. Elle nous interroge non pas sur le passé, mais sur notre avenir immédiat, là. La deuxième chose que je veux souligner, c'est que quand les pères fondateurs de l'Europe ont écrit cette fameuse maxime, c'est une sorte de table de la loi qui s'énonçait plus jamais cela, je crains que l'on n'ait pas bien compris la profondeur de ce qu'ils voulaient dire. Bien sûr, ceux qui ont regardé ce qu'était le siècle, le XXe siècle, le siècle d'Elsa Triolet et d'Aragon, à 20 mètres d'ici d'ailleurs, qui ont vécu à 20 mètres d'ici, ont bien compris qu'il s'agissait de ne pas reproduire les conditions qui avaient jeté des jeunes gens de 16, 17 ans dans des fossés, des tranchées, dans la guerre, au motif que deux pays avaient un conflit entre eux, et ce conflit, en réalité, c'était la puissance du Rhin, la domination des plaines agricoles de chaque côté, le débouché sur la mer du Nord, soit par le Rhin, soit par la Moselle. Bien sûr, il s'agissait de cela. La Deuxième Guerre mondiale, c'était d'abord, je vous en prie, si c'est chaud, il faut que vous mangiez parce que j'aurai mauvaise conscience. Vous êtes tellement bien élevé que ça ne fera pas de bruit, donc ça ne pourrait pas me gêner. La Deuxième Guerre mondiale, ce fut tout à fait autre chose. C'était la domination de l'énergie. Qui allait posséder non seulement le fleuve, mais qui allait posséder le charbon, qui allait posséder l'acier, qui allait posséder le textile, qui allait posséder encore les plaines agricoles, débouchées sur la mer du Nord, etc. On sait aujourd'hui, avec vraiment beaucoup de précision, si l'on veut se donner la peine de le comprendre, ce qu'ont été les souffrances de la Première Guerre mondiale, parce que quand nous étions, François Desnoyers, Philippe Morel, Monsieur Morel m'a rogé, mon ami Thierry Mathieu aussi, et peut-être quelques autres que je prie de m'excuser d'oublier ou de passer sous silence à Radio France, nous avons publié, nous avons aidé à publier, à amplifier surtout les lettres, la correspondance que les soldats des tranchées de la Première Guerre mondiale avaient envoyées à leur famille, et c'est absolument déchirant, d'une part. Quand ils sont rentrés, pour ceux qui sont rentrés, le continent européen avait changé. La France avait changé, l'Allemagne avait changé, le reste du continent européen aussi. Les hommes étaient fracassés. Si ça n'était pas physiquement, c'était mentalement. Ils ne fréquentaient plus leurs femmes. La baisse de la natalité, qui a suivi d'ailleurs cet espace-là, est une sorte de tragédie passive. Et on voit bien pourquoi s'est répandu sur l'Europe une sorte de pacifisme, parce que là, on était fatigué non pas de la paix et de la démocratie, on était fatigué, et comment ne l'aurait-on pas été ? Comment est-ce que ça aurait pu être autrement ? On était fatigué du massacre des humains européens par eux-mêmes. Ceci fut vraiment le premier signal. La Deuxième Guerre mondiale, dans les conditions de préparation des années 30 que vous connaissez, je rappelle pour ceux qui prétendent que tout ceci fut un accident, que le plus grand parti de France, avec le plus grand nombre de militants, fut le parti des Croix de Feu du colonel Larocque, qui avait un nombre de militants que les partis politiques d'aujourd'hui aimeraient bien retrouver. Autrement dit, ça n'était pas un hasard simple et unique, c'était quelque chose qui avait été orchestré, si je puis dire, par un activisme politique qui a détruit l'union de la nation, qui a cassé le Front populaire, qui a, bref, préparé les conditions d'une grande confrontation. Au sortir de cette Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ont voulu dire les Robert Schuman, les Spinelli, les Paul-Henri Spaak, un luxembourgeois que plus personne ne connaît, qui fut pourtant un des précurseurs de l'Union européenne, qui s'appelle Joseph Bech. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire avec plus jamais cela ? Quelque chose de beaucoup plus important que, même si c'est déjà suffisant, plus jamais la guerre. Ils ont voulu dire que ce continent de culture, dont la progression humaniste avait été dessinée dans notre histoire depuis 20 siècles, et même avant d'ailleurs déjà, qui avait été régulièrement fracassée, cette progression, par des grands conflits, par des grandes persécutions, par, n'oubliez pas, les guerres de religion et le désastre qu'elles furent. Il voulait dire qu'il fallait cesser de détruire l'homme au sens humain, si vous me pardonnez, mesdames. L'homme européen par lui-même. Plus jamais cela. La barbarie intrinsèque mûrit à l'intérieur de nous-mêmes, de telle sorte que quand on me demande dans les écoles de parler de l'Europe, où je vais presque une fois par semaine, parce que c'est là que ça se passe maintenant, il y a du boulot d'ailleurs, j'explique que l'Europe est un continent de haute civilisation et de puissante barbarie. Nous sommes les deux. Et l'Europe n'a jamais, au fond, eu de meilleur adossement civilisé que lorsque des femmes et des hommes de bonne volonté ont essayé d'organiser la vie publique, la pensée dans le débat, bien entendu, tout le monde ne peut pas et ne doit pas se ressembler, d'une manière que ce qu'il y a au-dessus de la ceinture l'emporte toujours et en toutes circonstances, si c'est possible, sur ce qu'il y a en dessous, la bestialité. C'est ça le plus jamais cela. Quel est l'acteur central de cette comment dirais-je, noble distinction de l'homme européen par rapport à la bête européenne, qui se déclenche régulièrement un peu comme les plaques tectoniques, comme disent les géologues, et qui se frappent, qui se cassent, qui se brisent et qui provoquent les volcans éruptifs qu'on peut appeler des guerres, qui ne se terminent pas forcément dans des guerres, mais qui se terminent dans des violences. C'est évidemment l'activité du cerveau, l'intelligence, c'est-à-dire la culture. Si je fais un test, bien sûr, nous sommes parmi un monde d'élite ici, mais même si vous descendez dans les classes moyennes et les classes populaires, le peu de culture qu'on leur a consacré, parce que c'est considéré comme une activité subalterne annexe, c'est comme l'histoire, c'est comme l'Europe, bref, c'est comme la vulgarité de tous ces dirigeants depuis 40 ans qui n'ont cessé de piétiner ce qu'il y avait de plus précieux et dont nous avons sans cesse besoin, à quelques rares exceptions près. Si l'on demande ce qu'est cet esprit de civilisation, naturellement, c'est la culture. Demandez donc à des gens ce qu'ils connaissent de la culture. Tous, même les plus humbles, auront un nom non français. Les esprits imprudents disent étranger. Il n'y a pas d'étranger en Europe à mes yeux. Je ne suis même pas français, bien que je sois français. Je suis un Européen de France. Ma famille vient d'Espagne. J'ai vécu un peu en Allemagne. J'ai vécu un peu aux États-Unis. J'ai vécu un peu à Londres. Je suis un Européen de France. Point. Et cette culture mérite une considération, enfin, ces cultures méritent une considération particulière. Les Européens sont dans le monde une race assez singulière, enfin, une race. Retirons vite ce mot de ma bouche et de vos oreilles. Je dirais des collectivités assez singulières. Nous connaissons tous dans notre fond d'aspiration culturelle, des noms venus d'autres pays que ceux où nous habitons, dans tous les domaines, la littérature, la peinture, la musique, le théâtre, la danse, et j'en oublie, l'architecture, bref. Nous sommes, de ce point de vue-là, vraiment multiculturés, et c'est une merveilleuse chose. Mais, par ailleurs, la culture n'a pas sa place politique dans des régimes démocratiques dont nous voudrions bien qu'ils demeurassent, comme on dirait, en parlant correctement, qu'ils demeurassent vraiment cultivés. La culture est un élément politique des sociétés. Ce n'est pas une décoration quand on a un peu de temps, un peu de loisir, c'est quelque chose de plus profond. Et pour une raison simple, nos régimes politiques n'ont pas fabriqué des cultures, généralement d'ailleurs où ils les ont aidés ou ils les ont persécutés. Non, ils sont la conséquence de nos cultures. Nous n'avons pas les cultures des régimes politiques, nous avons les régimes politiques de nos cultures, qu'elles soient historiques, qu'elles aient été renouvelées par les temps présents, qu'elles aient été combattues parfois, voire l'édit de Nantes puis sa révocation, et ce que ça a produit, voire les grands conflits, enfin tout ce que nous savons. En Europe, dans les temps présents aujourd'hui, l'activité artistique, au sens très général du terme, est une richesse inouïe politiquement, mais c'est aussi une richesse économique. Ernst & Young a fait, il y a 2 ans, vous la connaissez sans doute, cette étude, d'insister dessus, une étude qui a abouti au constat absolument rassurant, que c'était la culture, une économie qui valait chaque année 536 milliards d'euros sur notre continent. C'est pas rien. C'est plus que la voiture et les télécoms réunis. 7 200 000 emplois. C'est plus que les télécoms et la voiture réunis, etc. Et je dois dire que depuis Malraux, rénové par Duhamel, repeint, ripolliné avec bonheur par Jacques Lang et quelques successeurs, rares sont les épisodes dans la composition des gouvernements où le mental des dirigeants, chez nous les présidents de la République, ont été à la hauteur, à quelques centimètres au-dessus seulement de la vulgarité. Car quand même, il faut bien regarder que si cet élément est précieux pour le, comme on dit maintenant dans le monde moderne, le bien vivre ensemble, alors c'est à l'école que ça doit démarrer. Tout en bas de l'école. Et rien d'autre. Alors, bien sûr, nous sommes prodigues, nous sommes prolixes en subventions de toute forme pour aider ceux qui se battent dans ces domaines et qui en vivent et qui aiment et dont c'est le métier, le talent, mais ce n'est pas suffisant. Et voici ce continent dans lequel nous vivons. Et puis arrivent des éléments tout à fait nouveaux qui vont mettre la culture comme sur une sorte de reposoir en exergue. Car comment peut-on penser que ce que nous avons vu dans le Brexit britannique le 23 juin, ce que nous venons de voir, bien sûr, c'est le scrutin des délaissés, parce qu'il ne faut pas détourner la tête de cette réalité. La Grande-Bretagne est un pays riche, peuplé d'une partie importante de pauvres, et de gens d'ailleurs plutôt délaissés, carrément un peu sur le bord du chemin. Ceux-là ont sombré dans quelque chose qui est épouvantable, que j'ai d'ailleurs souligné il y a une semaine sous le titre. Je me cite, hein, parce que si je ne le fais pas, mes enfants qui n'ont pas lu ne vont pas le faire. Alors. Sous le titre, le pouvoir est donc au bout du mensonge. Parce que c'est ça que nous venons de dire. Un mensonge sans vergogne pour les partisans du Brexit britannique, qui l'ont reconnu d'ailleurs sans aucune vergogne non plus le lendemain, sombrant d'ailleurs sous le tapis, disparaissant, et laissant le désarroi que l'on voit et qui naturellement ne fait que commencer, parce que ça ne va pas être simple de bien des points de vue. Mais c'est aussi le mensonge du président, du nouveau futur président américain, disant des choses dont, à mon avis, ou bien c'est un imbécile, ce que j'ai quand même du mal à croire, je l'ai vu deux fois dans ma vie, il m'avait l'air quand même d'être assez informé, cet homme, il avait les moyens financiers de s'informer, ou c'est quelqu'un sans vergogne, je penche plutôt pour la deuxième hypothèse. Et à peine arrivé à la Maison-Blanche, vous voyez bien que lui aussi tourne un peu le vaisseau en disant « Ce que je vous ai dit, ce n'est pas tout à fait ce que je vais faire. Ceci ne peut pas préparer des heures harmonieuses dans notre pays, dans nos pays. Ceci ne peut pas. Si les gens s'aperçoivent rapidement que finalement c'est toujours la même chose, on me dit une chose et on fait le contraire, alors une révolution puissante se mettra en marche. D'ailleurs, me semble-t-il, elle est déjà en marche. Elle n'est pas partout. Elle est multiforme, mais quand je vous disais tout à l'heure au début de mon propos que les gens sont fatigués de la démocratie, c'est bien à cela que je fais allusion, et naturellement c'est contre ça qu'il faut lutter.